Les politiques environnementales, de quoi parle-t-on? Alors, bon, évidemment, c'est un peu une évidence, mais il y a une très grande diversité d'objets hein, sous l'appellation environnementale. Hein, on parle aussi bien. Alors, je pense que dans ce qui va être l'objet des discussions ce matin, on va surtout parler des politiques de conservation de la biodiversité, hein, en fait, il me semble, des politiques de l'eau et des politiques de la forêt, si je ne me trompe pas, hein, grosso modo. Hein, sachant que dans politique environnementale, on aurait pu mettre beaucoup plus de choses, des politiques de lutte contre la pollution, etc. Mais là, on est plutôt sur des objets liés aux ressources naturelles, d'une certaine manière. On a aussi dans ces politiques une grande diversité d'instruments de politique, avec en gros deux grandes familles, alors qui à la fois se sont succédées, mais qui coexistent encore aujourd'hui ensemble, hein, évidemment. L'une n'a pas remplacé l'autre. La première grande famille, c'est tout ce qu'on appelle les politiques de type command and control, donc c'est-à-dire où en fait on cherche à construire un cadre réglementaire et à le faire appliquer, hein, disons, dans une optique souvent centralisée. Hein. Classiquement, bon, c'est toute la politique des aires protégées. Et bon, toute la politique de légale hein, qui interdit ou réglemente tel ou tel aspect lié aux ressources. Hein. Alors cette politique a été très critiquée dans les années 90, 80-90, dans le mouvement plus général, disons, de développement des politiques néolibérales. Et souvent, d'autres instruments ont été promus, un petit peu sous-entendus, pour pallier à l'inefficacité de ces fameuses politiques command and control. Hein, une efficacité qui n'a pas vraiment été tout à fait toujours prouvée, hein, donc ça c'est un autre débat. Donc ces nouveaux instruments, souvent appelés basés sur le marché, un market-based instrument, donc cherchent comment dirais-je, à mettre en place des dispositifs qui créent des incitations, disons, hein, pour changer les comportements, plutôt que des dispositifs qui posent des interdits et pour lesquels il faudrait vérifier que ces interdits soient bien effectifs. Donc dans cette grande famille aussi très diversifiée, hein, il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'homogène, on peut ranger là-dessous au moins deux grandes catégories d'instruments. Ce qu'on appelle paiement pour services environnementaux. Hein, donc je ne vais pas trop développer parce que ça va être. D'ailleurs, ça devrait être abordé par l'exposé Jean-François Lecoq. Donc ça n'a pas trop abordé, mais enfin, bon, bref. La deuxième grande famille d'instruments, c'est tout ce qui tourne autour de la compensation pour la biodiversité. Hein, donc ce sont des dispositifs qui visent à compenser, c'est-à-dire une dégradation, une perte de biodiversité. Soit sous forme financière ou soit en reconstruisant, hein, donc c'est la compensation écologique par exemple, en reconstruisant dans d'autres lieux la diversité biologique qui aurait été dégradée dans un lieu. Voilà. Dans la réalité, donc ces différentes familles d'instruments coexistent souvent, hein, et donc c'est pas l'un remplace l'autre ou l'un à la place de l'autre, et on a souvent des emboîtements d'instruments dans des politiques nationales environnementales. Alors, la sélectivité dans les politiques environnementales. Alors, comment relier cette question, enfin, cette thématique de la sélectivité, qui est une manière peut-être différente de dire l'exclusion, ça, je ne sais pas trop, d'ailleurs, on pourra en discuter. Bon, il y a tout un volet qui concerne la question. Oui, alors, j'essaie de interpréter ce qu'a voulu dire mon collègue en direct. Des enjeux sur les problèmes environnementaux, les options de politique et d'instruments, oui, bon, c'est une évidence. Deuxième point, il y a des enjeux aussi sur l'efficacité environnementale, c'est-à-dire en gros quelles sont les priorités du dispositif ou de l'instrument. Est-ce qu'on vise avant tout, disons par exemple, à limiter la déforestation, hein, donc on peut avoir un objectif environnemental et une efficacité dédiée à cet objectif. Ou est-ce qu'on est sur des objectifs d'équité ou d'accès, hein, des populations à ces dispositifs? Donc ces conflits en fait d'objectifs se retrouvent souvent sur le terrain et au fil du temps. C'est-à-dire qu'un instrument de politique qui pouvait avoir une finalité principalement environnementale va être ensuite, on va lui assigner d'autres objectifs au fil du temps, au fur et à mesure que d'autres interlocuteurs s'engagent ou sont partenaires du dispositif. Et forcément, le curseur, selon il est mis sur les questions environnementales ou questions d'accès, va avoir des conséquences sur la sélectivité des bénéficiaires, si je puis dire, hein, ceux qui peuvent être touchés ou pas, ou concernés par ces politiques. Donc il peut y avoir aussi une sélectivité plutôt spatiale, hein, c'est-à-dire que dans un pilotage national d'un programme comme celui du Costa Rica, par exemple, ben, on a un certain nombre de moyens, on décide de les allouer à tel ou tel endroit, selon des critères X ou Y. Donc ça induit forcément une sélection hein, des espaces qui sont concernés ou pas, et donc des populations sur ces espaces. Il peut y avoir un ciblage aussi à caractère socio-économique ou spatial, toujours pour reprendre l'exemple costaricien que je connais un peu. À un moment donné, du programme de paiement pour services environnementaux, vous avez eu une pression internationale pour inclure les populations indigènes dans le programme, et donc il y a eu une politique, proactive qui n'existait pas au départ, qui s'est mise en place pour toucher les territoires indigènes, qui posaient des problèmes complexes pour le programme, parce qu'il n'y avait pas de titre de propriété individuel qui était le fondement, de la mise en place de ces paiements. Enfin, les enjeux autour de la sélectivité, forcément, entraînent, comme beaucoup d'autres enjeux d'ailleurs, c'est pas spécifique, je pense, à la sélectivité, entraînent des tensions et des problèmes d'articulation entre des niveaux de décision, hein, des espaces de pouvoir, hein, que ce soit locaux, nationaux, voire internationaux. Alors, un abordage, oui, ça aurait pu être mis entre guillemets. Je suppose que c'est une dérive d'un terme non français, dans le cas présent. Les politiques environnementales ne sont pas neutres, je pense que ce n'est pas une découverte que nous faisons ensemble, mais c'est important de le rappeler.
Oui,
Voilà.
surtout au moment de la COP21.
Surtout au moment de la COP21, tout à fait, voilà. Effectivement, on n'est pas que dans des programmes qui résolvent des problèmes grâce à la science éclairée, hein, effectivement. Voilà, donc il y a la question des enjeux de pouvoir, donc la sélectivité à la fois, enfin, de comprendre ces mécanismes de sélectivité qu'on va détailler dans la diapo suivante, si je me souviens bien, est important pour comprendre quels sont les enjeux de pouvoir derrière un programme, mais pour comprendre aussi peut-être qu'est-ce que produit ce programme, aussi en termes de transformation de ces enjeux. Voilà, donc les différentes dimensions de cette sélectivité, pour résumer un peu sous une autre forme ce qu'on vient de dire. On a une sélectivité forcément, enfin une sélection des problématiques à résoudre. Hein. Est-ce qu'on cherche à résoudre d'abord un problème environnemental et ou un problème de pauvreté, etc. On a une sélection spatiale, une sélectivité spatiale qui choisit donc laisse de côté forcément une sélectivité socio-économique, les ciblages. On a une autre sélectivité qui est peut-être moins visible ou moins, en tout cas moins affichée comme telle dans les programmes environnementaux. C'est un peu la sélection et le choix des systèmes de connaissances et d'informations qu'on va privilégier. Pourquoi elle est moins visible? Parce qu'elle est souvent recouverte d'un discours un peu général, justement, sur la scientificité, sur l'expertise, etc. Alors que, quand on regarde de plus près, on voit que souvent, justement, sur ce thème particulier, hein, de quel type de connaissances on a besoin pour piloter un programme environnemental, qui va produire ces connaissances, on a des enjeux entre les acteurs qui sont en mesure de produire ces connaissances, qui peuvent être de nature très diverse. Cette question dans l'hétérogénéité des connaissances, je pense, sera pas mal abordée dans l'exposé de Marie Rabanski à une autre échelle, hein, donc à celle de l'évaluation globale de la biodiversité. Voilà, alors je pense que le dernier point est relatif à. Alors, est-ce que c'est de la sélectivité? Je ne sais pas trop. Hein. Là, on a tout mis sous l'enveloppe de la sélectivité, ça mériterait une discussion. Le cadre juridico-légal ou administratif, effectivement, je reviens à cette question des droits de propriété. Hein, un programme de paiement pour services environnementaux comme celui du Costa Rica et comme pas mal d'autres dans d'autres pays repose sur des rémunérations en fait incitatives apportées aux propriétaires fonciers, donc suppose des droits de propriété. Donc, en cas d'absence de droits de propriété, il y a toute une ingénierie, sociale et politique qui se met en place pour imaginer des formes, de contractualisation, soit avec deux communautés, soit avec des populations, des familles, etc. Donc, ça suppose d'avoir une certaine pluralité, en tout cas, d'approche sur cette question juridique. Voilà. Donc, évidemment, là, on a un listing, mais tout ça interagit dans des configurations complexes. Voilà. Alors, quelques questions pour la discussion. Vous voyez, on a déjà listé les questions que vous allez nous poser. Donc c'est pratique. Alors, je plaisante. Donc il y a un peu cette question en amont, un peu comment définir la sélectivité. Alors on n'a pas défini le mot sélectivité, ça me gêne un petit peu. Je ne sais pas si on va pas le faire non plus au pied levé comme ça. Mais donc comment définir peut-être le degré de potentiel de sélectivité ou d'exclusion des politiques environnementales, on pourrait dire peut-être. Comment caractériser cette sélectivité? On a vu qu'il y avait différents paramètres. quelles interactions entre ces types de sélectivité qui peuvent être des interactions 2 à 2 ou des interactions d'échelle aussi. Hein, je pense qu'il y a certaines formes de sélectivité qui jouent à des échelles locales, d'autres jouent plutôt à des échelles nationales. Et ça rentre en ligne de compte pour analyser sans doute les configurations de ces programmes. Quels sont les facteurs explicatifs de la sélectivité? Comment s'exprime-t-elle? Quel cadre d'analyse mobiliser? Comment peut-on analyser ces processus? Donc je pense que Jean-François, et on est plusieurs d'ailleurs, a milité pour une certaine interdisciplinarité, à savoir que dans le cas présent, en tout cas sur le Costa Rica, on a beaucoup travaillé entre d'un côté économiste, institutionnaliste, et de l'autre côté sciences politiques, pour comprendre les différentes dimensions, disons, de ces processus de sélection et d'exclusion au niveau des programmes. On a manqué, je pense, ça aurait pu être utile d'avoir des approches plus anthropologiques, c'est-à-dire une observation beaucoup plus micro-sociologique à la base, même si ça a été fait dans une thèse en fin de notre programme. L'avant-dernier point, j'essaie de. Oui, quelle valeur ajoutée, certes, vous la lisez comme moi. Voilà, quelle valeur ajoutée d'une approche par la sélectivité? Ça, c'est une bonne question, hein, sachant que. Classiquement, par rapport aux programmes environnementaux, il y a deux grandes sensibilités dans la discussion. C'est la question du ciblage, hein, qu'est-ce qu'on touche, etc. La question des trade-offs, des compromis, hein, entre ce qu'on disait tout à l'heure, l'efficacité environnementale et les questions d'équité. Donc c'est surtout à cette moulinette, disons, que sont passés au crible les différents programmes ou dispositifs environnementaux. À ma connaissance, très peu d'approches pose la question de l'exclusion, parce qu'on parle de ça globalement, même si on met ça sous le mot sélectivité, si ce n'est sous la question de l'accès, on rejoint la question de l'équité, donc c'est peut-être à ce niveau qu'il y a quand même un lien assez fort. Ensuite, comment les différentes échelles interagissent pour expliquer la sélectivité? Voilà, donc on en revient à la question des échelles. Je crois que c'est la fin, donc je vous présente les deux exposés, parce que le troisième risque malheureusement de ne pas se faire, c'est bien dommage, on n'a pas pu récupérer non plus le PowerPoint à cause de ce problème d'avion. Donc Catherine Aubertin, qui va se présenter peut-être elle-même, ou enfin, qui est l'air d'Educra, je crois que c'est plus simple, fera un exposé sur le soja. Et un deuxième, Marie Rabanski, sur IPBS et la sélectivité des savoirs, en fait, la sélection des savoirs. Voilà, merci.